Parlons sport sur RTVFM.
RTVFM.
Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver pour une heure de sport local, un peu moins local ce soir. On va aller un peu se promener en Europe. Je suis toujours avec ma coéquipière de la saison, Valérie.
Bonsoir Jean-Yves, bonsoir à tous.
Et Théo qui nous a fait faux bond, l'escroc, sera remplacé avantageusement par Flo.
Salut.
Au programme ce soir, les résultats déjà. On aura une large, très large page rugby à 13 avec la présence de Jérôme Alonso et de Max Pala du rugby club de Carpentras 13, c'est le Racing Club, me semble-t-il. Oui. Carpentras 13. Avant ça, on aura les résultats avec Valérie. On aura les faits marquants du week-end. Il y a eu quelques faits marquants du week-end. Il y avait le World GBC Tour.
Oui.
On y était. On s'est régalé. On va y revenir un petit peu plus tard. Carpentras, le motoball, privé du titre. Par Camaré, on va y revenir.
Et duel fratricide.
Ouais, on va y revenir. J'ai des trucs à vous dire là-dessus. Le rugby, Bédaride s'impose avec facilité, presque 60 points. La Fédérale 3 aussi, il y avait une journée complète de Fédérale 3, on y reviendra. Je pensais faire un petit point sur l'état du Sorgue Basket Club, et puis on n'aura sûrement pas le temps, mais on le fera la semaine prochaine. En parlant de basket, on les recevra très prochainement, le Sorgue Basket Club, qui est en entente avec Carpentras cette année pour les filles, me semble-t-il. Donc ça sera intéressant éventuellement d'avoir les deux. Enfin, on va organiser un petit truc. On peut d'ores et déjà vous annoncer l'invité de la semaine prochaine, c'est le président du motoball de Carpentras qui reviendra pour débriefer sa saison.
Belle saison quand même, hein. Même s'ils sont vice-champions, ils ont quand même fait une belle saison parce que c'est vice-champion de la Coupe de France et vice-champion du championnat.
Donc. Ouais, alors le sportif que je suis a du mal à se dire que quand tu es que vice sur la coupe et le championnat, c'est une belle saison dans l'absolu parce que ils ont laissé plein de gens derrière, mais on avait coutume de dire nous que la place de second sur la place du com parce que t'as pas gagné et il y a toujours une espèce de frustration,
mais ça, tu parles en tant que, c'est vrai que joueur, enfin, mais au niveau du public, nous on ne peut dire qu'ils ont fait une très belle saison.
Absolument,
voilà, c'est ce qu'il faut qu'ils se disent, donc tous ces compétiteurs, c'est que derrière ils ont fait le spectacle et que le spectacle a régalé.
Ah oui, alors le spectacle pour les supporters, effectivement, mais voilà, ça a régalé, mais voilà, il y a ces deux finales. Et deux finales manquées. Donc voilà, on y reviendra sûrement la semaine prochaine avec Christophe. En attendant, on va accueillir comme il se doit Monsieur Alonso. Bonjour Jérôme, salut.
Bonjour.
Bonjour. Jérôme, entraîneur de Carpentras, sélectionneur de la sélection du Maroc.
Moi aussi, oui.
Finaliste de la Coupe d'Afrique de rugby à 13. On va y revenir un petit peu plus tard.
Pour une première, c'est pas mal. Hein.
C'est pas mal.
C'est même très bien.
Ouais.
Et supporter des Souths, mais on y reviendra. En attendant, les résultats avec Valérie.
Justement, je vais commencer par du basket, mais avec l'ABC de Carpentras. En U18 filles, Carpentras recevait Château-Renard. Et donc, Carpentras s'est imposé 78 à 11. Il y avait les U20 garçons département. Donc, Carpentras recevait le Thor. Et là, malheureusement, Carpentras s'est incliné sur le score de 43 à 85. En senior filles département, Carpentras se déplaçait aux Angles. Et là encore, Carpentras s'est incliné 39 à 48. En U20 garçons région, Carpentras recevait l'USAP. Et Carpentras s'est incliné 57 à 68. En senior garçon, Carpentras recevait Entraigues 50 à 66. Et enfin, en pré-national, fille justement l'entente Carpentras-Sorgue. Donc, rencontrer le SMUC et là, Carpentras s'est incliné 44 à 64. Le handball avec Mazan, il y avait le troisième tour de la Coupe de France en National 2. Mazan, donc, qui évolue en National 2, s'est incliné d'un tout petit but quand même face à l'équipe de Narbonne qui évolue en National 1, 25 à 26. Donc, très belle performance.
Puisqu'on est dans le hand, Avignon a perdu aussi tour de Coupe de France.
Oui.
On parle d'Avignon parce que l'actuel entraîneur d'Avignon n'est autre que Carl Vinsonneau, l'ex-entraîneur des filles de Mazan. Mmh. Et bonsoir Max Pala, directeur sportif.
Allez, je continue en motoball Elite 1, justement. Carpentras donc s'est incliné à Camaret, hein, 5-3, et Camaret donc devient champion de France. Au niveau du rugby à 13, on en reparlera tout à l'heure, mais Salon, donc Carpentras se déplaçait à Salon, et Carpentras s'est imposé, on va dire largement, 35-20. Je vois que Jérôme fait la moue, mais bon, moi je dirais que c'est une victoire. L'essentiel, c'est de marquer des points. Il y avait aussi Entraigues-Lyon, et là aussi Entraigues donc a écrasé, on va dire, Lyon 42-22. Au classement général, Carpentras est 5e, mais avec un match de retard, hein, et Entraigues est 4e. Du rugby à 15, Fédéral 1, Château-Renard, donc Bourg-en-Bresse, 29-19. Là aussi, une superbe performance de Château-Renard, hein, puisqu'ils ont quand même battu les deuxièmes du classement général, 29-19. Enfin, Bédarides serré, donc 57-17. Au classement général, Bédarides est 7e et Château-Renard 9e. Donc aussi, ce que je disais, une très belle performance de Château-Renard.
Excellente performance de Château-Renard, puisque Bourg-en-Bresse prend sa première défaite sur les terres de Château. Et Château enregistre sa première victoire de la saison. Il était temps, ça commençait à puer un petit peu du côté de Courbet.
Et enfin, donc, en foot féminin régional, une Monteux recevait Mouance, 3-0 pour Monteux, et au classement général, Monteux est premier. Voilà pour les résultats de ce week-end.
On va accueillir notre ami Max Pala. Salut Max.
Excusez-moi de mon retard.
Tu es tout excusé.
on reviendra avec vous, Max et Jérôme, dans 10 petites minutes à peu près sur la saison de Carpentras, ce qu'il faut en attendre et on fera un petit état des lieux du rugby à 13 dans le quartier.
Avec plaisir.
On a plein de choses à se dire, je crois. En attendant, on va revenir sur le fait marquant du week-end pour nous. En tout cas, c'était le World GBC Tour, la 14e édition, pardon. On y était, j'étais avec mon ancien compère des sports de RTV, avec Lionel. On a pris un pied extraordinaire, on s'est régalé, on a vu des combats fantastiques. Alors, on va pas tous les nommer parce que ça prendrait un temps infini. La Bruce Caudron Talent Cup, où Mathieu Caudron était engagé. On attendait beaucoup de Mathieu. A priori, il avait beaucoup de pression, Mathieu. Il n'a jamais réussi à rentrer dans son combat. Il a beaucoup subi, il a perdu au point en demi-finale. Enfin, voilà, son premier match dans le tournoi. C'est dommage parce que on attendait beaucoup de lui, et puis on s'est aperçu que le Bruce Caudron Talent Cup, c'était vraiment un truc de fou, parce que le gars qui a gagné l'an dernier en moins de 71 a fait un combat cette année. Il était à la carte principale et il a fait un combat de fou. Ça valide. On entendra David Blanc qui va nous parler dans quelques minutes de ce truc-là. Mais voilà, ça valide l'idée de la Bruce Caudron Talent Cup. Parmi les combats marquants, il y avait Anthony Valverde de Lille-sur-Sorgue, entraîné par Christophe Tandil, en moins de 90 kilos, me semble-t-il. Ça a été un combat de titans. Ils se sont donnés rendus coup pour coup et vraiment probablement avec le combat d'Eddie Naïssimani, le plus beau combat de la soirée. Bien sûr, Eddie, le main event, le plus beau combat de la soirée, le dernier combat. Eddie qui reprenait après presque un an sans boxer. Il avait un petit peu de pression parce qu'il a du mal à avoir la pression. Eddie, mais en tout cas, on le sentait très concerné. Il a tourné autour de son adversaire et il l'a pas lâché, il l'a rendu fou à tel point que son adversaire avait complètement dégoupillé à la fin, et puis Eddie a pu poser sa boxe. Flo, on va si vous le voulez bien revenir avec
justement, je voulais revenir sur Eddie. La semaine dernière, il l'avait dit, j'y vais, je vais voir,
alors
je vais faire.
Eddie, là, il a un énorme avantage, c'est qu'il fait toujours ce qu'il annonce, et là on l'a vu, hein, on a rigolé la semaine dernière avec lui sur sa façon super décontractée d'aborder les combats. On l'a vu là, moi je l'ai vu la veille où il était détendu au possible. Je l'ai vu avant le combat, il parlait avec tout le monde, il était concentré
absolument, sur son match.
Absolument, bien sûr. Après, une fois qu'il a été sur le ring, ben c'est une machine à distribuer des coups. Et il n'a pas perdu le fil de son combat. On va l'écouter si tu veux bien, Flo. On va écouter Eddie après sa victoire au point. Avec Inaïd Slimani, je l'ai bien dit, t'as vu. Eddy, d'abord, écoute, félicitations pour ta victoire. Et puis, que dire de plus ? Superbe victoire, superbe combat.
C'est le retour que j'ai pour le moment. Là, je suis chaud, donc je vais redescendre un petit peu, petit à petit, et analyser le combat. L'objectif avec David Blanc et Bruce Caudron, c'était d'effectuer les rounds, de reprendre des marques, parce que j'ai été coupé des rings pendant 11 mois, j'ai eu une blessure. Donc le but, c'était de reprendre ces marques et de monter crescendo de round en round. Je pense que je l'ai fait. Après, j'attends vraiment de me poser au calme et de pouvoir analyser le combat.
On t'a vu pas mal brancher ton adversaire pendant toute la soirée. Et même vers la fin, là, ça faisait partie de la tactique que tu avais mis en place ou t'essayais de le faire sortir des gommes pour pouvoir le poser au bon moment?
Exactement, c'était une manière de le faire sortir de sa boxe, de le faire venir. Après, c'est vrai qu'il venait tout seul, donc c'était pour qu'il se découvre davantage et que je puisse trouver des failles, parce qu'il était très compact. C'était un boxeur très physique, très compact. Donc j'ai joué sur cet aspect-là. Voilà, je pense que je suis pas allé à l'extrême. Je suis resté dans ce que j'avais à faire pour justement le faire sortir un petit peu de son combat, chose qui a plus ou moins marché.
En tout cas, tu es de retour. Maintenant, le programme, la suite, ça va être quoi?
Le prochain combat, je défends mon titre de la nuit des champions des 65 kilos face à l'Ukrainien Sergei Kuliaba. Ce sera un combat en synchrone de 3 minutes et ce sera dans un mois, le 16 novembre, au Palais des Sports de Marseille pour ce combat.
Encore un peu de boulot du coup, parce que passer de 3 rounds à 5 rounds, ça va être beaucoup de travail, j'imagine.
Ouais, ça se gère différemment qu'un 3 rounds. Il y a plus un round d'observation. Après, c'est moi le champion, donc va falloir que je confirme. Et ça, c'est d'autant plus compliqué de confirmer à chaque fois. Mais je suis positif avec le travail qu'on effectue au quotidien et avec le combat de ce soir.
Justement, quand on est tenant du titre, comment on le préhende le combat? Est-ce qu'on est dans l'attaque ou est-ce qu'on est plus dans la défensive?
Non, en fait, on fait comme si on n'avait rien. On fait comme si on n'avait pas de ceinture, comme si on était challenger. C'est la chose que je vais faire. Je n'ai pas de ceinture, voilà. Je n'ai pas de ceinture, je n'ai pas de titre. À moi d'aller chercher le titre et de faire le job.
En tout cas, encore bravo et merci pour ta disponibilité.
Merci à toi, bonne soirée.
Il est vraiment,
il est simple.
Ouais, c'est un truc de fou. C'est un grand champion, on le rappelle. Ouais. Hein, il est deux fois champion du monde, deux fois champion d'Europe. Mais il est toujours super abordable avec les gens, avec ses potes, avec nous qui venons l'ennuyer juste après le combat. Et ben, il répond aux questions. Et puis, il est déjà d'entrée. Ça y est, il avait terminé le combat dès qu'il est descendu du ring. Il était focalisé sur ce qui va se passer dans un mois. C'est pas la même, dans un mois, c'est la nuit des champions, c'est en 5 rounds de 3 minutes, donc il va falloir qu'il bosse encore un petit peu. Et puis voilà, en tout cas, on s'est vraiment régalé avec Eddy. Et puis le sentiment de la soirée, c'était que c'était une fois de plus une superbe réussite. On a pu discuter 5 minutes avec David Blanc, l'organisateur, l'entraîneur, le grand manager, David Blanc. Si Flo, tu as la... Et David Blanc, tes impressions sur cette soirée? D'abord, félicitations, c'était encore une superbe soirée, un beau vainqueur. Et toi, ce que tu en as retenu de cette jolie soirée?
Comme tu viens de le résumer, hein, j'ai que des retours positifs de manière générale dans la soirée, parce que voilà, le main event a tenu encore une fois toutes ses promesses. Hein, Eddy est bien de retour, voilà, devant un adversaire dur, coriace. Donc on a vraiment fait le boulot, donc ça nous met dans les meilleures dispositions pour la suite. Un grand tournoi, encore un très très gros tournoi. Malheureusement, on perd en demi-finale, mais ça fait partie du sport, hein, je veux dire, voilà, c'est ce qui permet d'apprendre. Les tournois, ça fait la deuxième année, chaque fois c'est un niveau super relevé. Donc ça va permettre de progresser et d'apprendre. Après, d'une manière générale, il y a quelques matchs où je suis super content de le match des 58 kilos. Franchement, avec retournement de situation, engagement total, c'est ce qu'on aime, hein, c'est ce qu'on aime dans le sport. Donc j'espère que tout le monde a passé une bonne soirée encore. Et puis voilà, ça nous donne un prolongement sur la 20e, sur la 20e année, 25e événement. Donc super content, vraiment.
La victoire de Luc là dans le combat des 71 kilos, ça valide la Bruce Talent Cup?
Ah ben complètement. Hein, je veux dire, c'est petit à petit. C'est ce que me disaient quelques boxeurs, justement, et pas forcément ceux qui ont boxé ce soir, même dans le public, qui sont venus me voir en me disant ça devient vraiment un passage obligé, pas obligé, mais voilà, un passage obligé parce que c'est une vraie référence. Quoi. Voilà, ce tournoi, en peu de temps, en 2 ans, Bruce a su poser un cadre, tu vas me dire, un petit peu à l'image de sa carrière et de ce qu'il représente. Hein, voilà, ça triche pas, c'est Franck du Collier, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, super content pour Bruce également, pour la suite, enfin pour tout cet ensemble de choses.
La défaite de Mathieu, du coup, c'est le bémol de la soirée un petit peu.
Bémol, oui, bien sûr qu'on n'aime pas perdre et qu'on est là pour gagner, il faut être clair. Mais après, en même temps, le sport, c'est comme ça. C'est dans la difficulté qu'on grandit, c'est en affrontant des tops qu'on devient un jour un top. Non, franchement, non. Il y aurait vraiment eu un non-match où, voilà, bon, là, oui, ça aurait été peut-être une déception. Mais là, on savait que le tournoi, voilà, super relevé. Il faut être au niveau, il faut y être de suite. Et voilà, on a manqué un peu de d'expérience, un peu, voilà. Mais c'est ce qu'il nous faut pour progresser. Donc finalement, ouais, c'est certainement mal.
Ouais. Voilà, avec David, ben voilà, David qui débriefait un peu sa soirée à notre micro. Il y a encore une fois une belle réussite. Juste voilà, et lui il dit que c'est pas un bémol, mais quelque part c'est un petit peu dommage. Alors ça vient pas gâcher la fête. C'est dommage pour Mathieu parce qu'on le voyait bien, Mathieu, il était prêt, il avait beaucoup bossé pour ça, mais on a l'impression, nous, qu'il a jamais réussi à vraiment rentrer dans son combat et puis vraiment se lâcher. Peut-être que la pression était beaucoup trop importante pour lui. On était à Mazan, il boxait dans une compétition qui porte son nom, enfin le nom de son frère, et puis c'était son premier combat pro, donc il y a peut-être de l'avenir pour ce garçon, il y a même très très sûrement de l'avenir pour ce garçon. Il va falloir qu'il se ressaisisse rapidement, mais aucun doute, il va y arriver. Ouais. Juste un dernier mot sur le rugby, puisque on était hier, j'étais à Bédarrides, on s'est régalé, on a vu un superbe match des joueurs de l'ASB, il faut plus dire des Bédarridiens, je me suis fait gronder l'autre jour. On a vu un superbe match des joueurs de l'ASBC qui avaient plié le match en 10 minutes, un quart d'heure. Il y avait déjà 20 points d'écart en 10 minutes, je crois, ou en un quart d'heure. Et il y avait 30 points à la mi-temps. Voilà, c'était plié. Les autres résultats, pour comme vous l'a dit Valérie, pour signaler la superbe victoire de Château-Renard, l'autre club régional qui s'est imposé face à Bourg-en-Bresse sur le score de 29-19. Première victoire pour Château et qui va faire du bien à tout le monde. Première défaite pour Bourg-en-Bresse aussi, qui était second au classement. Dans la Fédérale 3, il y avait une journée complète de Fédérale 3, et celle-là, pour le coup, elle nous intéresse, puisqu'il y a cette Fédérale 3, c'est beaucoup de clubs de par chez nous. Il y avait un match énorme entre Le Ponté et Cavaillon. C'est Le Ponté qui l'a emporté, là aussi avec beaucoup de difficultés, puisqu'ils ont mené très largement, Le Ponté, presque 20 points d'écart, et puis ils ont eu 5 dernières minutes un peu compliquées où les Cavaillonnais ont failli revenir. Ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Le Ponté est toujours invaincu et continue son bonhomme de chemin. Le Ponté, ça va être c'est la grosse cote de la saison. Ils se sont armés pour être champions.
Sont bien partis d'ailleurs, ils sont premiers quand même au classement général. Hein.
Ouais, ils se sont beaucoup renforcés. Les entraîneurs que j'ai la chance de connaître et de côtoyer, Mika Mabilon et Ludo Zanini, ont construit un groupe qui leur ressemble, avec d'anciens champions de France de Fédéral 2 de Bédarrides, et des joueurs qui viennent de droite à gauche là, et la mayonnaise est en train de prendre parfaitement bien. Les Angles sont allés s'imposer du côté de l'Isle-sur-Sorgue. Les Angles, on était inquiets puisqu'ils redescendaient de Fédéral 2. C'est jamais facile de redescendre, mais manifestement, ils ont bien avalé le truc et ils sont allés s'imposer du côté de Lille. Et puis, Valréas a perdu du côté d'Aix. Ça va être super compliqué pour Valréas. Ça fait quelques défaites déjà. Ils ont juste une victoire et quatre défaites. En tout cas, dans cette poule, Le Ponté est premier, les Angles second, Lille cinquième et Cavaillon sixième. Une petite page musicale et après on reviendra sur le rugby à 13 avec nos invités Jérôme et Max Pala.
million miles away, waking up on Monday morning, wishing it was Saturday. Kids screaming out, no warning. So be a distant memory. I can hear the future calling, let it wait. Cause you know that we got time to get ourselves together. We got time for us. So maybe let's waste our time like we'll be young forever. Stay forever young. When we were 17, feels like just yesterday. Living a lucid dream, those years just fall away. One day we'll be 33, before we old and gray. Let's still be 17, like yesterday. Let's stay younger together. 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 Let's stay younger together.
Parlons sport sur RTVFM.
Allez, on est de retour ici au studio à Carpentras-Serre avec nos invités. Jérôme Alonso, l'entraîneur, on ne dit plus le co-entraîneur cette année, on dit l'entraîneur de l'équipe 1. Et Max Pala, le directeur sportif, c'est ça?
C'est la clé à molette.
Le couteau suisse. Le couteau suisse de.
Celui qui fait tout.
Voilà. Non, mais voilà, il faut être multicarte.
Ouais, d'ailleurs, c'était toi le coach la semaine dernière, non, me semble-t-il?
J'ai fait l'intérim de
Jérôme.
De Jérôme, ouais.
Ça, alors,
c'est pas trop mal sorti.
Ben ouais, carrément. Ouais. Juste
un premier match, justement, la reprise, se mettre dans le bain, et les joueurs en moins, c'était pas mal quand même, mais c'est bien.
Il fallait démarrer. Ouais.
Donc, en parlant de semaine dernière, Jérôme, deux petites minutes sur ton expérience internationale de sélectionneur. Tu avais une expérience internationale de joueur, oui. Et maintenant tu as une expérience internationale de sélectionneur. Raconte-nous un petit peu alors.
Bah écoute, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire.
On rappelle pour ceux qui ne savent pas que Jérôme est le sélectionneur de la sélection du Maroc.
Ouais. Donc, comme je te disais, j'ai vécu une expérience fabuleuse. C'est quelque chose que auquel je ne m'attendais pas à vivre, parce que j'ai rencontré des... Déjà, j'ai vécu dans une autre culture, déjà, donc ça m'a permis de voir comment vivent ces gens-là. Et franchement, j'ai été estomaqué, parce que c'est des gens qui... Quand je suis arrivé, sans être médisant, ils ne savaient pas jouer au rugby. Ils avaient joué, ils n'avaient jamais joué à 13, ils n'avaient joué qu'à 9. Donc il a fallu apprendre à jouer au rugby en 3 jours. Donc c'est quand même compliqué, et je pense qu'on est bien arrivé, puisqu'on a gagné notre premier match contre le Cameroun. Après, le Nigeria, c'était un autre niveau, donc c'était vraiment, vraiment compliqué. Mais donc, j'ai vécu vraiment une expérience fabuleuse. Et je pensais, vu les difficultés qu'il y a avec la fédération, puisque ce n'est pas encore une fédération royale, et au Maroc, pour être reconnu, il faut être fédération royale. On risque de le passer maintenant, puisqu'il fallait participer à une compétition officielle pour l'être. Chose est faite, en plus on a fait la finale, donc on devrait passer Fédération Royale. Donc j'avais prévu d'arrêter, parce que quand je suis arrivé, que j'ai vu que les joueurs n'avaient jamais joué, je me suis dit dans quelle galère tu t'es mis. Mais finalement, en ayant passé 15 jours
finalement,
avec eux,
tu vas replonger.
Ouais, en ayant passé 15 jours avec eux, je ne peux pas les abandonner, parce que j'avais des jeunes. J'avais 3 jeunes de 17 ans, le plus vieux devait avoir 22-23 ans, et ils ont faim d'apprendre le rugby. Tous les jours ils m'envoient des messages pour que je leur envoie des exercices et tout. Donc j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire, et en plus avec les 4 franco-marocains que j'ai découvert, que je connaissais comme ça d'adversaire, qui sont des mecs en or, et que voilà, on a passé des moments inoubliables, que c'est quelque chose que je garderai toujours au fond de moi.
À t'entendre, on a l'impression que tu as débarqué un peu comme dans le film Rasta Rocket, un petit peu là, avec tout à faire en 3 jours là, et finalement ça se goupillait bien, quoi.
Ouais, ben c'est tout à fait ça. C'est... Je te dis, on est arrivé, le premier contact qu'on a eu avec les joueurs, c'est, parce que je ne les connaissais pas, c'est leur poser quelques questions sur leur poste, leur point fort, leur point faible. Donc, à les entendre, je me suis dit, on va être champion du monde, parce qu'ils n'avaient que des points forts et pas de points faibles. Et quand on est arrivé sur le terrain, au bout de 5 minutes, comme bon, il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient français, je demandais à mon capitaine Adam Edich de faire de traduire. Je leur ai dit, mais demande-leur s'ils ont déjà joué au rugby. Et non, en fait, ils avaient joué qu'à 9, donc voilà. Donc on a eu 3 jours pour les apprendre à jouer à 13, et on est content de nous, parce que on en rigole maintenant, mais dans l'avion on s'est dit, on va rentrer en France, on va écrire un livre, le rugby pour les nuls en 3 jours, et c'est vrai, c'est ce qu'on a fait, et c'est de là que l'expérience est fabuleuse, quoi.
Est-ce que, parle-nous de cette équipe du Nigeria, parce que nous on connaît ce qui peut se passer pour le Nigeria, mais pour les gens qui découvrent le rugby à 13, parler d'une équipe du Nigeria, alors on sait que pour la plupart les mecs jouent en Angleterre, c'est ça, hein?
Ben là, si tu veux, pour la compétition, on avait droit, enfin, les 4 nations avaient droit de prendre 7 joueurs avec la nationalité de leur pays, mais qui n'évoluent pas dans leur championnat. Après, on était limité à 7, justement parce qu'ils voulaient promouvoir le rugby à 13 dans ces 4 pays. Dans le Nigeria, effectivement, ils avaient 7 joueurs qui jouent en Angleterre, dont un qui joue en Super League. Et les autres, bon, il y en avait un en Super League, un en Championship, c'est les 5 autres qui jouent en Ligue 1. Mais bon, déjà, c'était un niveau largement supérieur au nôtre, qui n'avait jamais joué. Donc nous, on a eu les 4 franco-marocains qui ont joué 180 minutes sous une température qui était insupportable. Et ça a été, voilà, ça a été dur physiquement. Je pense que si on avait pu, nous, avoir 7 joueurs franco-marocains, on aurait pu tenir un peu plus. Mais le Nigeria était quand même nettement au-dessus, en sachant que les joueurs qui jouent dans leur championnat ont l'habitude de jouer au rugby à 13.
Deux questions, et après on reviendra sur Carpentras. Est-ce que tu as du potentiel ailleurs enfin, autre que ce que tu avais là? Est-ce que potentiellement tu as des joueurs qui jouent en France ou en Angleterre, par exemple, que tu pourras prendre? Et la deuxième question, mais elle est un peu liée à la première, c'est quel est l'avenir du rugby à 13 en Afrique?
Ouais, mais la première question, oui, la première question, c'est que maintenant on va rentrer dans un processus où on va être, on va attaquer les matchs éliminatoires pour participer à la Coupe du Monde des pays émergents. Là, si je veux prendre 20 joueurs qui jouent dans le championnat français, j'ai le droit de les prendre. Maintenant, je pense que ça servira à rien pour faire évoluer le rugby dans le pays. Une chose est sûre, c'est qu'on en prendra certainement plus que ce qu'on en avait là, donc on en avait que 4. Je pense que si on doit faire un groupe de 25 joueurs, j'en prendrai peut-être 13 franco-marocains et 12 marocains, pour déjà un, pour faire évoluer les 12 marocains, et pour être plus costaud sur la compétition. Après, le rugby en Afrique, franchement, nous, je pense que c'était le Maroc, le pays qui est le plus en retard. puisque, comme je te disais, il n'y a pas de fédération royale, donc la fédération royale qui existe met des bâtons dans les roues toutes les 5 minutes à la fédération à 13.
Benazi.
Voilà, c'est nous, je te le dis comme je l'ai vécu, on est arrivé le premier jour sur le stade d'entraînement, le lendemain on est arrivé à l'entraînement, le stade était fermé avec un cadenas. Il a fallu que ce soit la police qui vienne, qu'on fasse appeler le maire de la ville qui nous avait donné l'accord du stade. Bon, c'est un peu... nous, on se plaint en France, mais dans les pays comme ça, c'est pire. Et au Nigeria, pareil, puisqu'on devait jouer dans le plus grand stade de Lagos, et les 15 ont bloqué le stade, on s'est retrouvé à jouer dans un stade de cricket, donc... C'est compliqué, mais je pense que on pourra les faire progresser, mais pour les faire progresser, il faudrait vraiment qu'ils aient de l'aide de l'extérieur, parce que les gens qui s'occupent de sur place ne sont pas formés, et donc ils apprennent pas spécialement les bonnes choses aux joueurs.
Allez, revenons. En tout cas, bravo pour cette expérience, et on va revenir un petit peu plus proche maintenant avec les Carpentraciens. Bon début de saison. On s'était vu il y a 3 semaines, ouais, où tu étais plutôt inquiet. Tu redoutais un peu ces deux premiers matchs, en tout cas. Et puis ça s'est bien passé. Une victoire contre Toulon, un peu à l'arrache, et là une victoire contre Salon. Bien, bon début de saison.
Oui. Sur le plan comptable, c'est un très bon début de saison, puisqu'on est sur la lignée de la saison passée où on est encore invaincu. On est la seule équipe avec Villefranche à être invaincu. Après, oui, j'étais inquiet parce que, comme tous les ans, comme tout entraîneur, bon, Max, lui, n'était pas inquiet, mais moi, je voyais que les joueurs n'étaient pas là. Et finalement, au final, on est arrivé à avoir un groupe qui, pour moi, est plus performant que la saison dernière, même si on a perdu de très bons joueurs comme Anas ou comme Hugo. On les a remplacés par des joueurs qui sont peut-être moins forts individuellement, mais qui rentrent plus dans le collectif, chose qui est vraiment importante pour un entraîneur. Et là, on l'a vu samedi soir à Salon, où tout n'a pas été parfait, loin de là, mais ça commence à se mettre en place, et on a marqué de beaux essais, et je pense que cette saison, il faudra encore compter sur nous.
On parle une seconde de Hugo Bravo. Ça s'en va, ça revient, je vais tenter une expérience en élite, et finalement ça marche pas, je reviens à Carpentras, 2 jours après je repars. À un moment, c'est compliqué à gérer pour les dirigeants et l'entraîneur que vous êtes. Comment on le gère, ça? Parce que à un moment, tu peux pas compter sur ce genre de joueur pour faire ta saison.
Oui, tout à fait. De toute façon, dès le départ, c'était clair avec Hugo. Il partait à l'essai à l'UTC. Si ça ne faisait pas, on l'aurait repris comme on a fait. Par contre, il aurait fallu qu'il démontre ce que je lui avais dit quand il est revenu, qu'il avait envie d'être avec nous et à 100%. Il est revenu une petite semaine, puis il a fait le choix de partir à Toulouse. Par contre, il a été clair. Il m'a envoyé un message de suite avant que ça sorte dans la presse. Et bon, comme je lui avais dit avant, là, cette fois, si ça ne fait pas, il faudra que je cherche un club, parce que moi je suis pas la roue de secours des joueurs qui tentent leur chance en élite. Donc même si Hugo c'est un très bon joueur, maintenant on a notre groupe, on a des joueurs comme je te dis qui sont peut-être moins forts individuellement mais qui rentrent plus dans le collectif, donc maintenant je lui souhaite quand même de réussir, parce que c'est un super joueur et que je pense qu'il a tout pour réussir en élite. Maintenant il faut qu'il progresse mentalement.
Comment tu le vis, toi, Max, ce genre de...
Comme il dit, on s'était préparé, on comptait pas sur Hugo, puisqu'il devait partir à l'UTC. Voilà. Après, ça, c'est pas allé jusqu'au bout là-bas, mais ça lui a fait une bonne expérience. Après, voilà, je comprends son désir de voir évoluer en élite 1. Il a les capacités, comme dit Jérôme. Voilà, écoutez, après, c'est toujours pareil. Ça reste... je suis un affectif. Ça reste des petits de chez nous, quoi, qui ont éclos là. Donc, la porte, elle reste toujours ouverte. Il y a toujours une assiette avec des couverts. Tu sais, c'est l'assiette du porc. S'il y a quelqu'un qui rentre, il est à la maison. Donc, moi, j'espère qu'il va réussir à Toulouse. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, qu'il grandisse, quoi. Qu'il grandisse. Et peut-être qu'un jour, il reviendra chez nous et plus fort.
En parlant de retour, Jimmy Ave, la surprise. La surprise du chef cette semaine. Il avait, on le rappelle, c'était votre ouvreur qui avait mis un terme à sa carrière, et finalement, il revient. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, par contre.
Ben, c'est une très bonne nouvelle, parce que...
T'aurais oublié de t'y coller, Jérôme ?
Non, non, je ne me serais pas collé, mais bon, on avait une charnière avec, avec Thibaut Santoui et Louis Sagne, qui est une très bonne charnière. Maintenant, on sait tous que c'est un poste où on est sujet à prendre des coups, parce qu'il faut attaquer les lignes, il faut faire plein de choses, et si on avait eu un blessé, on aurait été un peu dans la galère. Là, avec Jimmy, ça nous permet d'avoir trois meneurs de jeu. On a Alexis qui peut dépanner aussi de temps en temps à ce poste, donc c'est que bien, et surtout on connaît tous la valeur de Jimmy, donc oui, c'est
Jimmy,
plus pour
l'équipe. Jimmy qui a remis la main sur le groupe d'entrée, qui s'est imposé samedi soir, et
ouais, il a fait une bonne partie, ouais, et il met un drop qui nous fait garder l'avantage. Il a transformé des belles pénalités là sur le côté aussi, en coin. Bon, voilà, on connaît le joueur, il a plus rien démontré, quoi.
Qu'est-ce qu'il en est de cet Écossais australo William, ça, qui devait arriver?
C'est pas un australo écossais, c'est un Écossais qui est né en Écosse, qui a été formé en Angleterre, et qui, ça fait 2 ans qu'il joue en Australie. Donc il arrive le vendredi 25 octobre et il fera son premier match dans la foulée contre Pierre le 27.
Voilà. Il sera prêt.
Bienvenue.
Oui, il sera prêt puisqu'il a fini sa saison.
Ouais, il y a
3 semaines. Là, il finissait son taf en Australie, il rentre un peu chez ses parents en Écosse, et voilà, donc il devait arriver le 26, et justement, il a avancé son voyage d'un jour pour pouvoir jouer contre Pierre.
L'autre surprise du chef, c'est la signature de André Ousetti.
Ouais, Raphaël. Ben voilà, on a eu son accord dans la semaine là. Donc c'est une bonne nouvelle pour
il était engagé à Entraigue, non?
C'est un Entraigois depuis quelques saisons. Ouais. Mais bon, là, il avait décidé de prendre un peu de recul. Et puis il était libre. Voilà. On a commencé un peu à discuter avec lui, et puis voilà, il a mieux voulu venir nous rejoindre, donc c'est une bonne recrue, c'est certain. Voilà, après son frère, ça fait un deuxième Androsetti qui portera le maillot rouge et blanc, donc voilà, on va amener un peu du poids.
Son père qui est toujours soigneur à Entraigue.
Ben non, il n'y est plus, je crois pas. Peut-être qu'il viendra plus à Carpentras, je pense. Mais non, ça va ramener du poids.
Et de la vaillance un peu. Ouais.
Et de la vaillance, ouais, parce que c'est un joueur qui est assez rude, donc ça va nous plaire.
Donc du coup, Jérôme, il y a 3 semaines, tu étais un peu dans le doute, là. Tu me disais, ça serait bien d'arriver à faire la même saison que l'an dernier, et même mieux, mais tu me le disais presque sans trop y croire. Là, ça y est, hein, on a repris un peu une dose d'optimisme, et on va faire la finale, c'est ça?
Ben écoute, comme disaient mes amis marocains, Inch'Allah. Maintenant, oui, comme je disais, rien que là, bon, on a encore Toby qui va arriver, Raphaël qui va arriver. Samedi à Salon, c'était mon 32e match à la tête de l'équipe, c'est la première fois où je fais 12 changements. Donc ça prouve qu'on a une profondeur de banc qui est nettement supérieure à la saison passée, où je faisais 4-5 changements par match. Là j'en ai fait 12, et le niveau de l'équipe n'a jamais baissé. Donc avec l'apport de 2 joueurs supplémentaires, sachant qu'il y en a qui ne jouaient pas non plus ce match-là, c'est sûr que les ambitions sont de nouveau de sortie. Et voilà, on est tous des compétiteurs. Je pense que la saison sera réussie si on fait mieux que la saison dernière. Donc faire mieux, c'est faire la finale.
Et la gagner ?
Une finale, ça se joue pas, ça se gagne.
Comment du coup tu arrives à gérer ce groupe, parce que finalement vous êtes parti avec un groupe qui était on va dire ce qu'il était il y a un mois, et puis finalement il y a les apports qui arrivent. Est-ce que à un moment ils vont être tous prêts de la même manière? Est-ce que c'est pas compliqué d'intégrer des mecs je pense notamment à Jimmy, il n'y a pas très longtemps qu'il a arrêté, mais Raphaël par exemple, qui avait probablement pas beaucoup bossé pendant l'été, et comment vous faites pour arriver à les intégrer, ces mecs-là?
Ben là déjà, on va voir Raphaël, que j'ai eu au téléphone dans l'après-midi, il sera là demain à l'entraînement. À savoir que on a aussi changé notre fonctionnement, où maintenant on a Kael Martinez qui est préparateur physique à temps plein avec nous, donc il est là sur tous les entraînements. Et justement, il est là pour s'occuper justement des joueurs qui sont un peu en, en manque de conditions ou pour réathlétiser les blessés. Donc voilà, si on voit que Raph a du retard sur la préparation physique, ben,
il fera durable.
Il sera sur le côté avec Kael pour être en forme. Après, franchement, je trouve que bon, la première partie de saison, c'est Laurent, le même préparateur que l'an dernier, qui l'a faite. Et là, Kael a repris depuis le 1er octobre. Et on a vu quand même la différence avec Salon, c'est qu'on n'a pas baissé de bras de la première à la 80e. Et voilà, l'an dernier, ça nous avait bien servi. Je pense que cette année, les joueurs sont prêts à nouveau.
Le prochain match, Pia. Gros morceau qui arrive.
Ouais. Voilà, un gros morceau, ouais. En plus, ils vont arriver un peu avec les dents longues, puisqu'ils ont perdu chez eux ce week-end. Maintenant, comme j'ai dit en début de saison, et comme je l'ai répété à des journalistes, la Roseraie était imprenable la saison dernière, hormis la coupe à Toto, là, que ça nous intéressait pas trop. On n'a pas fait semblant de perdre, mais elle nous intéressait pas trop, donc c'était pas trop grave. Et cette année, il faut qu'elle reste imprenable aussi. Donc, on sait que quand on vient à Carpentras, tout le monde a un peu l'appréhension, mais c'est à nous de faire douter tout le monde. Et voilà, cette année, la Carpentras sera très dur de venir gagner.
Avec un public nombreux qui met la pression à Pia.
Voilà.
les autres catégories, on va dire, junior, ouais. Cadet, minime, ça en est où? Parce que on sait, comme dans tous les clubs, et le rugby à 13 fait partie des sports en difficulté, mais à 15 c'est pareil, et dans plein d'autres sports c'est pareil. Vous en êtes où de la formation? Il y a beaucoup de gamins cette année qui jouent en première, qui ont été formés à Carpentras.
Tout à fait.
C'est un peu la marque de fabrique aussi.
Bien sûr.
Vous en êtes où là de toutes ces difficultés? Parce que là, le président était plutôt pessimiste là quand on s'était vu le mois dernier. Ça en est où?
Non, le travail qui a été entamé il y a plusieurs saisons commence à porter ses fruits, hein, puisque l'école de rugby est bien garnie avec toutes les catégories représentées, donc des U8 jusqu'au U12, je crois, donc des pupilles au Benjamin. Voilà, ils ont déjà fait deux tournois et on s'est super bien comportés, donc c'est super. Et après, voilà, les minimes, les cadets, les juniors, je veux dire, il manque pas une équipe à Carpentras aujourd'hui. C'est les féminines, voilà, c'est ce qui nous manquerait, on va dire. Mais la jeunesse est bien représentée, bien encadrée, avec des bons éducateurs. Je pense donc à Olivier Rostand qui s'occupe du main de maître des minimes, donc qui ont gagné ce week-end d'ailleurs, je crois, en Trègue. Les cadets sont menés par Ludo Gourjon et Toko. Pareil, ils sont revenus vainqueurs d'un tournoi à Nine à Toulon. Donc avant ça, ils avaient fini sur 10 équipes 5e à Carcassonne. Donc là, ils sont frottés aux Catalans, aux Carcassonnais, etc. Donc c'est jamais simple dans ces catégories-là, parce que ça joue, ça envoie du bois.
Bien sûr.
Donc non, moi je suis vraiment satisfait là de la jeunesse. Et puis les juniors hier qui ont super bien démarré leur premier match en battant Saint-Estève. Voilà, qui est quand même une belle équipe formatrice, quoi, de super jeunes. Donc il y a eu un gros match du côté de la Roseraie avec, alors j'y étais pas, désolé, mais a priori de très gros tampons. Donc un match rugueux et voilà, qui s'est bien soldé, quoi.
Saint-Estève qui a enregistré la signature d'un nouveau préparateur physique. Pala, il s'appelle.
Ouais, Pala, ouais. Ben, ouais. Et ben, voilà, il continue, il arrête de jouer, mais bon, il reste dans le milieu du rugby, hein, c'est sa passion depuis tout le temps. Donc voilà, ben, donc on aura peut-être en coupe, je sais pas, peut-être ça serait bien qu'on les voit arriver du côté de la Roseraie. Mais bon, pour revenir aux jeunes, voilà, non, c'est bien, le travail commence à payer. Bien sûr, il faut jamais relâcher, parce que ben, si tu laisses à un moment donné une équipe ou une génération un peu à travers, tu mets très longtemps à pouvoir reconstruire. Mais là, franchement, on peut que pas se satisfaire, mais un peu, mais continuer à travailler dans ce sens-là, quoi. Que les parents soient confiants quand ils nous amènent leur gamin le mercredi, les samedis quand on se déplace. Voilà, c'est important. Hein. On reste toujours en ce côté familial. Là, il y a une super initiative samedi. L'entraînement de l'école de rugby sera samedi matin à la Roseraie. Et on a Peco Rodriguez qui nous offre une paella pour les parents, ceux qui veulent venir. Donc il y a ce côté voilà où on reste soudés et puis ben voilà, c'est notre marque de fabrique. On est un petit club mais on sait se serrer les coudes quand il y a besoin. Donc voilà, ça c'est les côtés sympathiques également, tu vois.
Justement, est-ce que c'est pas compliqué du coup d'exister, parce que on va parler des choses qui fâchent, mais enfin, qui fâche. On sait que de l'autre côté du département, il y a un projet qui a vu le jour, et avec le SOA, ils appellent ça le community, le SOA, Entraigues, Cavaillon, Caumont,
mais c'est bien.
Qui ont uni leur potentiel et qui justement essaient de faire un gros club. Alors on n'est pas encore à ce qui s'était passé en Catalogne il y a 30 ans, mais quelque part l'idée est là. Est-ce que pour vous, à un moment, ça va pas être compliqué de rester en dehors de ce truc-là et de pas créer votre propre entre guillemets communauté?
Je comprends. Ben voilà, ils cherchent un peu de l'aide de partout, donc c'est un projet que moi j'ai pas suivi, mais j'ai vu qu'ils avaient qu'ils s'étaient un peu unis. Bon, ça me rappelle quand même vaguement ce qui a existé il y a quelques années, le Grand Avignon. On sait comment ça a terminé. Donc non, moi je là aujourd'hui voilà, le club de Carpentras, oui c'est certain qu'on est seul. Mais bon, on fait partie d'une ville quand même de 30 000 habitants et un bassin quand même qui est assez conséquent.
C'est quand même le comte à Venessin. Hein,
le comte à Venessin,
c'est vrai qu'on est quand même assez loin d'Avignon. Donc pour les parents à mener leurs gamins
après
du côté d'Avignon, ça fait loin. Quoi.
Avignon, voilà, en essayant de gratter un peu à Caumont, etc. C'est certain que c'est pour essayer de gratter un peu des jeunes des écoles de rugby. Voilà, c'est certain que les petits clubs forment et puis ben après c'est Avignon qui récoltera. C'est important pour un club comme Avignon, je le comprends. Nous aujourd'hui, quand on se déplace sur les tournois, on arrive à aligner pratiquement deux équipes par catégorie. Donc voilà, alors faut qu'on continue le travail. Tu veux pas, ça peut s'arrêter, mais tant qu'on aura de la force comme ça sur l'école de rugby, etc., on pourra rester seul. Maintenant, après, je sais pas ce que demain. Peut se passer. Hein. Après, s'il y a une grande. Il faudrait se mettre un jour peut-être autour de la table. C'est pas le cas encore. Voilà.
On va continuer à parler de tout ça dans quelques minutes. On va faire une petite pause musicale et puis on revient dans deux minutes.
En ce moment, dans vos magasins Destock Prime, Carpentras et Château Renard, c'est la foire au vin avec de très grands crus à prix imbattables. Votre déstockeur casse les prix sur de nombreux vins de qualité. Alors n'hésitez plus, le choix, la qualité, le prix, c'est dans vos magasins Destock Prime, 1899 Chemin de Saint-Jean à Carpentras et 524 Boulevard Ernest Genevet à Château Renard.
Message de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin. La Cove vous simplifie la vie. Maintenant, tous les emballages se trient. Déposez en vrac dans votre bac jaune tous les emballages vidés sans les laver. Emballages en métal, papiers et cartonnettes et tous les emballages plastiques. Flacons, bouteilles et bidons, pots de yaourt ou de crème, barquettes, films d'emballage et sachets. Quant aux bouteilles et bocaux en verre, ils sont à déposer dans les colonnes des points d'apport volontaires. Merci pour votre geste de tri. Info sur lacove.fr.
RTVFM est partenaire du Speed Meeting de la Rénovation qui aura lieu à Bédouin le samedi 19 octobre de 14h à 18h à Lousteau d'Anaïs. Vous allez pouvoir rencontrer et échanger avec les différentes entreprises qualifiées dans ce domaine en isolation, en ventilation, rénovation énergétique, mais aussi en énergie renouvelable. N'hésitez pas à vous rendre à ce Speed Meeting à Bédouin. Votre radio RTVFM sera pour l'occasion en direct toute l'après-midi de 14h à 18h sur Internet. rtvfm.net, mais aussi sur le 102.2.
Parlons sport sur RTVFM.
Allez, de retour pour la dernière partie de cette émission consacrée en grande partie au rugby à 13 et au club de Carpentras. On était en train de parler en off de la formation carpentrassienne. On va y revenir parce que c'est important. Et Jérôme, tu me disais que la formation carpentrassienne, c'est un truc qui fonctionnait. Du coup, on faisait écho au projet de ce qui se passait du côté d'Avignon, où vous me disiez que sur la feuille de match de samedi, il y avait 13 joueurs qui avaient été formés au club.
Oui, tout à fait, c'est ça. Les, Les seuls joueurs qui n'étaient pas formés au club, c'était nos deux Serbes, Zoran et Dani. Théo, qu'on a fait venir de Salon cette saison, et Gilles Gans, qui a été formé à Intrègue. Donc en plus, on peut rajouter que sur 17 joueurs, et bien, on en avait 15 formés dans la région PACA. Donc c'est pas mal, mais surtout voilà, 13 joueurs sur une feuille de match qui sont formés dans le club. Je pense qu'on doit être un des rares clubs à pouvoir prétendre à faire ça.
Pour le coup, la formation de la région PACA, c'est un truc qui tourne. Alors on a beaucoup décrié le pôle de Salon, etc., etc. Je sais que c'est beaucoup décrié, mais au final, on s'aperçoit que ça fonctionne. Quand on regarde les feuilles de match des Dragons catalans, notamment, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de mecs qui sont passés dans les clubs de la région. Je pense notamment à Tony Gigot, Vincent Duport, et on passe les meilleurs.
Les Provençaux, oui.
Pala, et là, Mika Goodman et compagnie.
Arthur Yaya. On a un Carpentracien, Romano.
Romano qui a fait ses premières feuilles cette année. Là,
qui a été élu rookie de
la saison. Meilleur jeune dragon de la saison.
Ça, c'est une grande fierté. Il est venu nous faire un coucou là, la semaine avant Toulon, avant le match de Toulon. Il est venu à l'entraînement. Donc voilà, c'est les jeunes. C'est un plaisir pour les jeunes de Carpentras de voir Arthur. Donc voilà.
Du coup, ça doit leur filer un peu la niaque là, et quelque part l'envie de se projeter, et ça doit amener un surplus de motivation.
Bien sûr.
Peut-être pas les joueurs de la première, parce que quand ils arrivent en première, c'est un peu tard, mais ouais. Les cadets, les juniors là, probablement que quand ils voient débarquer Arthur, mais quand ils ont aussi vu débarquer les autres, peut-être que ça leur donne un petit coup de niaque.
Il n'y en aura pas 50, mais si tu arrives à en sortir un comme ça par génération, c'est tu as gagné, quoi. Voilà. Si on peut envoyer tous les 5 ans un joueur dragon catalan, on sera très heureux. Maintenant, voilà, c'est certain que c'est un exemple pour les jeunes, et ils savent ce qu'il reste à accomplir pour pouvoir arriver à ce niveau-là, quoi.
Ça rapporte quelque chose de former Arthur Romano et de l'envoyer au dragon catalan?
Je crois pas, non. Financièrement, non, il n'y a aucun retour sur ça, puisque c'est des contrats professionnels.
Il n'y a pas d'unité de formation comme dans d'autres sports.
Non. Mais bon, voilà, rien que pour lui, sa famille, ses amis de Carpentras, et puis Arthur suit quand même tous nos matchs. Il est très proche du club. Son père est donc un éducateur, on va dire, qui fait partie des
pur Carpentrassier, lui, par contre, qui a jamais
le pilier de Carpentras. Donc voilà, il reste très 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 proche de nous, quoi.
D'ailleurs, il s'en remet pas, Francky, d'être obligé d'aller supporter les Dragons à intervalles réguliers. Il arrive pas.
Ça fait plaisir d'avoir le petit, bien sûr.
Bien sûr que ça fait plaisir. En tout cas, c'est plutôt glorifiant pour des clubs formateurs comme vous. Et je pensais à Veden tout à l'heure en parlant de Vincent Duport, mais c'est plutôt trippant, ou même de Apt là quand ils sortent le petit Garcia.
Garcia.
C'est plutôt ça rejaillit sur l'ensemble du club et sur les éducateurs.
Ça reste des porte-drapeaux après du club, bien sûr. Et puis voilà, c'est les petits de l'école de rugby qui ont des flashs plein les yeux là, qui regardent leurs joueurs à la télé, donc ils savent qu'ils viennent de ce club. Donc on a tous été jeunes, on a tous eu des idoles.
Est-ce que vous voulez qu'on pourrait faire un petit tour d'horizon des équipes que vous allez affronter là cette saison, parce que le championnat est dense quand même. J'ai l'impression, même moi, qu'il est encore plus dense que l'an dernier, avec beaucoup de mouvements du côté de la Catalogne. Là, les mecs sont passés de Pia à Bao, de Bao à droite à gauche, à Ille. Il y a Ille qui est monté aussi sur tête, qui a eu du mal à l'allumage, mais finalement qui se profile comme un redoutable compétiteur. Qui vous craignez le plus, vous? Tout le monde, je sais, Jérôme.
oui, bon, bien sûr, on se méfie de tout le monde. Maintenant, moi, je l'avais annoncé il y a très tôt dans la saison. Pour moi, le favori de cette saison, ce sera Villefranche. Parce qu'ils ont fait un recrutement cohérent. Déjà, ils ont pris un super entraîneur qui connaît bien le rugby et qui sait faire jouer ses équipes. Après, ils ont fait un recrutement intéressant, et ça se voit sur les trois premières journées. Ils sont invaincus, ils sont allés gagner à Pierre la semaine dernière. Après, je pense que ce sera plus compliqué, plus serré que la saison passée. Voilà, il peut être la surprise qu'a été Pia et Carpentras l'an dernier, qu'on n'attendait pas, et qui ont fait une bonne saison. Après, il faudra compter sur, voilà, sur Bao, Villegayen et Entraigues. Après, un tour en dessous, quand même, je pense qu'il y aura Lyon, sans manquer de respect à ces clubs. Lyon, Salon et.
L'Escure.
Ouais, L'Escure, on ne sait jamais. L'Escure, ils ont toujours du mal à l'allumage.
Ouais. L'Escure, L'Escure, il y a les vendages là-bas. Donc. donc
c'est des clubs.
Ouais, chaque année, ils sont à l'agonie en décembre. Et après, ils finissent en boulet de canon. Donc, non, moi, pour moi, les trois équipes qui vont avoir de la difficulté, c'est Toulon, Lyon et Salon. Même si Toulon va rapidement progresser avec Justin
Murphy entraîneur qui a joué au Dragon aussi
mais justement moi j'étais en sélection avec Badr là, le pilier de Toulon qui est marocain et qui me disait que oui déjà il avait eu un impact sur les joueurs mais que ça allait être compliqué parce qu'ils ont énormément de quinzistes et que comme on dit c'est difficile quand t'es senior pour s'adapter rapidement à un autre sport.
C'est pas un peu compliqué justement pour ces garçons là et pour un club comme Toulon par exemple qui monte son projet autour de mecs qui n'ont jamais joué au ballon. On va pas parler non plus des fameux Sharks de Montpellier qui avaient annoncé ce sont deux cas différents mais par exemple pour les Toulonnais ils ont recruté beaucoup de quinzistes. C'est pas un peu compliqué pour eux de se mettre au rugby à 13, on sait que ça demande pas le même volume, la même densité physique, que c'est pas du tout le même jeu, et ils risquent d'avoir un sérieux problème, même s'ils ont un entraîneur de classe internationale.
Ben ouais, c'est sûr, en même temps, comment faire pour faire revenir des trésistes à Toulon, c'est aussi ça, c'est le nerf de la guerre, en même temps, on le sait, c'est l'argent. Donc même si Toulon est une grande ville, je pense pas qu'ils aient un budget énorme, donc... Ils se sont basés sur ça, essayer de faire progresser ces joueurs-là. Maintenant, c'est un challenge intéressant pour Justin, mais qui va être quand même compliqué, je pense, sur la durée. Maintenant, voilà, regarde, ils nous ont accrochés à nous chez nous. Ils ont battu Villegayen ce week-end, donc
ouais, je pense qu'il faudra.
Je pense que voilà, ce sera une équipe voilà accrocheuse comme elle a été l'an dernier, puisque l'an dernier ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, mais ils n'ont jamais pris de grosses branlées, contrairement à d'autres équipes. Maintenant, voilà, je pense que quand on a un bon entraîneur, c'est plus facile pour faire progresser des joueurs qui n'ont jamais joué au rugby.
Dit-il, le mec qui a fait une demi-finale la saison dernière.
Non, mais moi, ils avaient tous joué au rugby.
Ouais, ils ont un apport aussi de trois étrangers, Toulon.
Ouais, ils ont joué hier. Ils ont signé des
Australiens. Ouais, mais bon, c'est quand même le gros coup de la journée hier, parce que je pense que je ne les voyais pas gagnants. Mais donc, il faut tomber quand même Villegayen, qui est un gros morceau. Donc non, il faut se méfier. Moi, je trouve que le championnat, il va se resserrer cette année. Je pense qu'il peut y avoir des surprises chaque dimanche. Il y en a eu hier, donc I qui va gagner à Bao. Bao double bon champion de France de la Coupe l'année dernière. Donc il faut se méfier. Il n'y a pas de petite équipe en fait.
Si Bao qui a perdu pas mal de joueurs pour le coup.
De cadre, bien sûr. Ouais. Ils ont perdu les cadres, mais bon, il y a un tel vivier là-bas qu'ils sont vite remplacés. Alors c'est certain que c'est un peu plus jeune, mais il manque pas de joueurs, quoi. C'est certain.
Un dernier mot sur ces équipes comme Bao justement, qui sont champions en titre. On en a déjà parlé, mais et qui continuent à refuser la montée et qui quelque part polluent un petit peu. Alors c'est moins le cas de Bao cette année, mais par le passé, ça a été le cas avec d'autres équipes, notamment Villegayen, qui était champion, qui refusait la montée, et puis finalement qui te plombait le championnat.
Oui, non, en fait, c'est certain que ces équipes-là, oui, elles trustent toujours les premières places, etc. Mais en même temps, d'un côté, c'est ce qui peut nous permettre à nous d'évoluer aussi, parce que si demain on a un championnat, s'il devait remonter en Elite 1, qui serait peut-être remplacé par une équipe plus faible, on se retrouve avec un championnat Elite 2 qui serait d'un niveau moindre. Je pense que c'est quand même pas notre avantage. Je préfère être champion de France Elite 2 avec ces grosses cylindrées-là. Parce que voilà, ça nous fait travailler, nous, ça nous fait bosser, on sait que c'est dur. Donc,
Et justement, alors si vous êtes champion de France.
Ah ben là, on boit du champagne. Hein.
Et on monte ou on monte pas?
Ben nous, on monte.
Est-ce que vous êtes prêts à.
On se prépare petit à petit, mais de toute façon, c'est le discours que Max m'a tenu et que les trois présidents m'ont tenu quand on est arrivé avec elle la semaine dernière. C'est-à-dire que oui, de toute façon, si on est champion et qu'on monte pas, moi je resterai pas parce que on a toujours envie d'être au plus haut niveau et le plus haut niveau c'est l'Elite 1, donc c'est le rêve pour les joueurs. Et c'est aussi un rêve pour l'entraîneur de faire monter son équipe.
Bien sûr.
Eh bien, écoute, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, on sera encore une fois derrière vous toute la saison.
D'ailleurs, il faut venir commenter le match contre Pierre. Si
on
ne
sera pas, malheureusement. Pas là. Moi, je ne suis pas là, malheureusement. Non. Parce que c'est le 26 ou le 27
Le 27. Et la semaine après, on va à Entraigue.
Entraigue, on l'avait déjà fait, le match.
On ne va pas reparler de ce match-là, d'ailleurs. En tout cas, on va vous suivre de près. Comme on l'a fait la saison dernière. Bon tout ce qu'il faut. On va pas vous souhaiter bonne chance.
On embrasse les trésistes de Carpentras, ouais. Les supporters.
Et
merci, vive le RCC 13.
Merci pour votre disponibilité. Et puis à très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.